Ivanhoé, chapitre 25. Lorsque le templier entra dans la grande salle du château, De Bracy s'y trouvait déjà. « Votre amour, dit De Bracy, a été troublé, je le suppose, ainsi que le mien, par cette sommation fanfaronne. Mais vous êtes revenu de votre entrevue plus tardivement et plus à regret, d'où je présume qu'elle a été plus agréable que la mienne. » « Votre déclaration a donc été faite sans succès à l'héritière saxonne ?» dit le templier. « Par les reliques de saint Thomas Becket, répondit De Bracy. « Il faut que Lady Rowena ait entendu dire que je ne puis supporter la vue d'une femme en pleurs. »« Bah !» dit le templier. « Toi, un chef de compagnie franche, tu te soucies des larmes d'une femme. » Quelques gouttes d'eau répandues sur la torche de l'amour ne font que raviver l'éclat de sa flamme. Grand merci de tes quelques gouttes, répliqua De Bracy. Mais cette damoiselle a versé autant de larmes qu'il en faudrait pour éteindre un phare. On n'a jamais vu des mains se tordre de telle sorte et verser un tel déluge de larmes depuis les jours de Sainte Niobé, dont le prieur Aymer nous a parlé. Le démon des eaux s'est emparé de la belle saxonne. « Une légion de démons s'est emparée du cœur de la juive, » répliqua le templier, « car je pense qu'un seul démon, quand c'eût été Apollon lui-même, n'eût pu inspirer un orgueil et une résolution aussi indomptables. Mais où est Front de Bœuf ? Ce corps retentit avec un son de plus en plus perçant. Il s'occupe de ses négociations avec le juif, je présume, » répliqua froidement De Bracy. Il est probable que les hurlements d'Isaac auront étouffé le son du corps. Tu dois savoir par expérience, Brian, qu'un juif qui se défait de ses trésors, à des conditions semblables à celles que notre ami Front de Bœuf est capable de lui offrir, doit pousser des lamentations assez bruyantes pour étouffer les fanfares de 20 cors et de 20 trompettes. Mais nous allons le faire appeler par des vassaux. Front de Bœuf les rejoignit bientôt. Il avait été interrompu dans sa cruauté tyrannique, ainsi que le lecteur le sait déjà, et n'avait tardé à venir que pour donner quelques ordres indispensables. « Voyons la cause de ce bruit maudit !» s'écria Front de Bœuf. « Voici une lettre, et si je ne me trompe, elle est écrite en saxon. » Il la regarda en la tournant et retournant dans ses mains, et comme s'il avait réellement quelque espoir d'arriver à en connaître le contenu en changeant la position du papier. Puis il la présenta à De Bracy. « Ce sont, pour ce que j'y comprends, des caractères magiques, » dit De Bracy, lequel avait sa bonne part de l'ignorance qui caractérisait la chevalerie de l'époque. Notre chapelain a voulu m'enseigner à écrire, mais toutes mes lettres avaient la forme de pointes de lance et de lames d'épée. Si bien que le vieux tonsuré finit par renoncer à la tâche. « Donne-moi cette lettre !» s'écria le templier. « Nous tenons assez du caractère clérical pour avoir des connaissances suffisantes pour éclairer notre valeur. Faites-nous donc profiter de votre très révérend savoir, » reprit De Bracy. « Que dit cet écrit ?»« C'est une lettre formelle de défi, » répondit le templier. « Mais par Notre-Dame de Bethléem, si ce n'est pas une sotte plaisanterie, c'est le cartel le plus extraordinaire qui ait jamais passé le pont-levis d'un château seigneurial. »«
Plaisanterie !» s'écria Front de Bœuf.
« Je voudrais bien savoir qui oserait plaisanter avec moi sur cette matière. Lisez, sire Brillant. » Le templier, en conséquence, lut ce qui suit. « Moi, Wamba, fils de Witless, bouffon d'un homme de naissance noble et libre, Cédric de Rotherwound, dit le Saxon. Et moi, Gert, fils de Beowulf, Porcher.
« Tu es fou ?»
dit Front de Bœuf, interrompant le lecteur.
« Par Saint-Luc, c'est écrit en ces termes !» répondit le templier.
Alors, reprenant sa tâche, il continua. « Moi, Gert, fils de Beowulf, Porcher dudit Cédric, avec l'assistance de nos alliés et confédérés qui font cause commune avec nous dans notre querelle, savoir. Le bon chevalier appelé pour le moment le Noir Fainéant et le brave yeoman Robert Locksley, surnommé le Fendeur de Baguettes.
À toi, Réginald Front de Bœuf, et à tous tes alliés et complices, quels qu'ils soient, faisons savoir. Attendu que vous avez, sans motif, sans déclaration de guerre, injustement et par force, saisi la personne de notre seigneur et maître, ledit Cédric, ainsi que celle d'une noble damoiselle de libre naissance, Lady Rowena de Argoxtonstead, et celle d'un homme de naissance noble et libre, Athelstan de Coningsburg, ainsi que celle de certains hommes nés libres, leur knick, aussi sur certains serfs, nés leurs esclaves, ainsi que sur un certain juif nommé Isaac d'York, et sur sa fille, une juive, et certains chevaux et mules, lesquels, nobles personnes, avec leurs kniks et esclaves, et avec les chevaux et mules, juifs et juives déjà mentionnés, étaient tous en paix avec sa majesté, et voyageaient comme de bons sujets sur le grand chemin. En conséquence, nous exigeons et demandons que lesdites nobles personnes, savoir Cédric de Rottenwood, Rowena de Argoxtonstead, Athelstan de Coningsburg, avec leurs serviteurs, knit et partisans, ainsi que les chevaux et les mules, le juif et la juive sunommée, en même temps que tous les biens mobiliers et immobiliers à eux appartenant, nous soient rendus une heure après la réception de la présente, à nous ou à ceux que nous désignerons pour les recevoir, et qu'ils soient remis intacts corps et biens. Faute de quoi, nous vous faisons savoir que nous vous tenons comme brigands et traîtres, et nous prenons l'engagement, soit de vous combattre en bataille rangée, soit d'assiéger votre château, et de faire tous nos efforts pour vous causer préjudice et vous exterminer. Sur ce, que Dieu vous ait en sa sainte garde. Signé par nous, la veille de Saint-Withold, sous le grand chêne, dans le Hart Hill Walk, le tout étant écrit par un saint homme, prêtre de Dieu, de Notre-Dame et de Saint-Dunstan, dans la chapelle de Copmanhurst. Au bas de cette pièce était griffonnée en premier lieu la rude esquisse d'une tête de coq avec sa crête, suivie d'une légende exprimant que cette espèce d'hiéroglyphe était la signature de Wamba, fils de Witness. Sous ce respectable emblème était une croix, que l'on indiquait devoir être la signature de Goethe, fils de Beowulf. Puis on avait écrit en caractère grossier mais hardi les mots de « noir fainéant » et pour terminer le tout, une flèche assez nettement dessinée représentait la signature de Locksley. Les chevaliers écoutèrent la lecture de ce document extraordinaire d'un bout à l'autre, puis s'entre-regardèrent avec un muet étonnement, comme ne pouvant s'expliquer ce que cela pouvait signifier. De Bracy fut le premier qui rompit le silence par un éclat de rire qu'il ne put réprimer, et auquel prit part le Templier, bien qu'avec un peu plus de modération. Front de Bœuf, au contraire, paraissait impatient de cette hilarité intempestive. « Je vous avertis franchement, dit-il, mais beaux sires, que vous feriez mieux de vous consulter pour savoir quelle conduite tenir en cette occurrence, que de vous abandonner à une gaieté déplacée. » Front de Bœuf n'a pas repris sa bonne humeur depuis sa récente défaite, dit De Bracy au Templier. Il est intimidé à la seule idée d'un cartel, bien que celui-ci nous vienne d'un bouffon et d'un porcher. Par Saint-Michel, répondit Front de Bœuf. Je voudrais que tu pusses soutenir tout le choc de cette aventure à toi seul, De Bracy. Ces rustres n'eussent pas osé agir avec une impudence aussi inconcevable s'ils ne se sentaient appuyés par quelque forte bande. Il y a dans cette forêt assez d'outlaws pour se venger de la protection que j'accorde Odin. Un jour, j'ai fait lier un des leurs, qu'on avait pris en flagrant délit de braconnage, aux cornes d'un cerf sauvage qui le perça et le tua en 5 minutes. Et depuis lors, ils m'ont lancé autant de flèches qu'on en a tiré contre la cible à Ashby. Ici, drôle, ajouta-t-il en s'adressant à un de ses serviteurs, as-tu envoyé quelque éclaireur pour reconnaître par quelle force il compte soutenir ce beau cartel? Il y a au moins 200 hommes réunis dans les bois, répondit un écuyer qui se tenait près de là.
Voilà une belle affaire, dit Front de Bœuf. Voilà ce qui m'arrive pour vous avoir prêté mon château. À vous qui n'avez pas su conduire vos entreprises assez secrètement sans attirer ce nid de frelons autour de mes oreilles.
De frelons ? S'écria de Bracy. Dites plutôt de bourdons sans dard, une bande de drôles qui courent les bois, détruisent la venaison au lieu de travailler pour vivre.
Sans dard, répliqua Front de Bœuf. Des flèches à tête de fourche de 3 pieds de long et qui ne manquent jamais leur but, ne fût-il pas plus large qu'une demi-couronne. Voilà du dard, il me semble.
Fi donc, messire chevalier, dit le Templier, convoquant nos gens et faisant une sortie contre eux. Un chevalier, un seul homme d'armes, ce sera assez pour tenir tête à 20 paysans de cette espèce.
Assez, même trop, dit de Bracy. J'aurais honte de braquer ma lance sur eux.
Vous auriez raison, répondit Front de Bœuf, si c'était des Turcs ou des Maures, messire Templier, ou de timides paysans de France, très vaillant de Bracy. Mais ce sont ici des yéomènes anglais, sur lesquels nous n'aurons d'autres avantages que ceux que nous tenons de nos armes et de nos chevaux, qui ne nous seront que de peu d'utilité dans les clairières de la forêt. Faire une sortie, dis-tu ? À peine avons-nous assez d'hommes pour défendre le château. Mes meilleures troupes sont à York. Il en est de même de votre bande, de Bracy, et nous n'avons qu'une 20aine d'hommes, outre ceux qui se trouvaient engagés dans cette folle affaire.
« Tu ne crains pas, dit le Templier, qu'il ne s'assemble en force suffisante pour menacer le château. »«
Non pas, sire brillant, répondit Front de Bœuf. Ces outlaws ont à la vérité un capitaine audacieux, mais sans machine, sans échelle de siège et sans chef expérimenté. Mon château peut braver leurs efforts. »«
Envoie dire à tes voisins, reprit le Templier, qu'ils rassemblent leurs gens et qu'ils viennent en aide à 3 chevaliers assiégés par un bouffon et un porcher dans le château seigneurial de Réginald Front de Bœuf.
« Tu plaisantes, sire chevalier, répondit le baron.
Mais chez qui envoyer ? Ma voisin est déjà à York avec ses partisans ainsi que mes autres alliés. J'y serai aussi moi-même sans votre entreprise infernale.
Envoie donc un messager à York et rappelle nos gens, dit de Bracy. S'ils soutiennent le déploiement de mon étendard ou la vue de mes francs compagnons, je les reconnaîtrai pour les plus hardis outlaws qui aient jamais ployé l'arc dans la forêt.
Et qui portera un pareil message ? Dit Front de Bœuf. Ils vont occuper tous les sentiers et ils s'empareront du messager et de son message. J'ai une idée.
C'est cela, ajouta-t-il après un moment de réflexion.
« Messire Templier, tu sais sans doute écrire aussi bien que tu sais lire. Et si nous pouvons seulement trouver l'écritoire et la plume de mon chapelain, qui est mort il y a un an, au milieu du festin de Noël... »«
S'il vous plaît, » dit l'écuyer qui était encore de service. « Je crois que la vieille Urfouide les a mis de côté par amour pour le confesseur. Ce fut le dernier homme, lui ai-je entendu dire, » qui lui ait jamais parlé avec cette courtoisie que les hommes ont l'habitude d'employer avec les femmes et les jeunes filles.
« Va donc les quérir, Angered, » dit Front de Bœuf. « Et alors, messire Templier, tu vas répondre à ce hardi cartel. »
« J'aimerais mieux faire cette réponse à la pointe de l'épée qu'à la pointe de la plume, » reprit Bois Guilbert. « Mais qu'il soit fait comme vous le désirez. »
Il s'assit et écrivit en français une épître ainsi conçue. Sire Réginald Front de Bœuf, avec ses nobles et chevaleresques alliés et compagnons, n'accepte point de défi de la part d'esclaves, de serfs ou de fugitifs. Si la personne qui se dit le chevalier noir a véritablement droit aux honneurs de la chevalerie, il doit savoir qu'il se dégrade par sa présente association, et qu'il n'a nul droit de demander des comptes à des hommes vaillants de noble race. Quant aux prisonniers que nous avons faits, nous vous prions, par charité chrétienne, d'envoyer un prêtre pour recevoir leur confession et les réconcilier avec Dieu, puisque notre intention immuable est de les exécuter ce matin avant midi, de sorte que leurs têtes, placées sur les créneaux, montreront à tout le monde quel cas nous faisons de ceux qui se sont occupés de les secourir. Sur ce,
Comme nous l'avons mentionné, nous vous engageons à leur envoyer un prêtre pour les réconcilier avec Dieu. Et ce faisant, vous leur rendrez le dernier service que vous puissiez leur rendre en ce monde. » Cette lettre étant pliée, fut remise à l'écuyer, lequel la transmit au messager, qui attendait au dehors la réponse à sa missive. Le yeoman, ayant ainsi accompli sa mission, revint au quartier général des Alliés, qui était en ce moment établi sous un vénérable chêne à 3 portées de flèches environ du château. C'est là que Wamba, Gert, leurs alliés, le chevalier noir, Locksley et le joyeux ermite attendaient avec impatience une réponse à leur sommation. Autour d'eux, et à quelque distance, on voyait un grand nombre de braves yeomen, dont l'habit forestier et les figures hâlées indiquaient assez les occupations habituelles. On en avait déjà réuni plus de 200, et d'autres arrivaient rapidement. Ceux à qui ils obéissaient comme à leur chef ne se distinguaient des autres que par une plume fixée à leur bonnet. Leurs vêtements, leurs armes et leur équipement étant semblables sous tous les autres rapports. Outre ces troupes, une force moins régulière et moins bien armée, composée des habitants saxons de la ville voisine et de beaucoup de serfs et de domestiques des vastes domaines de Cédric, étaient déjà rassemblés en ce lieu pour contribuer à la délivrance de leur maître. Le plus grand nombre n'avait d'autres armes que ces instruments rustiques que la nécessité convertit quelquefois en armes offensives, des épieux à sangliers, des faux, des fléaux, et autres instruments semblables étaient leurs armes principales. Car les Normands, avec la politique jalouse des conquérants, ne permettaient pas aux Saxons vaincus la possession ou l'emploi d'épées et de lances. Ces circonstances rendaient l'assistance des Saxons bien moins redoutable aux assiégés que la vigueur même de ces hommes. Leur nombre supérieur et l'animation inspirée par la justice de leur cause ne les eut rendus sans ce désavantage. Ce fut au chef de cette armée bigarrée que la lettre du Templier fut remise. On s'en rapporta d'abord au chapelain pour en connaître le contenu. « Par la houlette de Saint-Destan, » dit ce digne ecclésiastique, « par cette houlette qui a conduit plus de brebis dans la bergerie que celle de tout autre saint du paradis. Je vous jure que je ne puis vous expliquer ce jargon qui est indéchiffrable. Je ne puis deviner si c'est du français ou de l'arabe. » Alors il donna la lettre à Gert, qui, secouant la tête d'un air rechigné, la passa à Wamba. Le bouffon examina chacun des 4 coins du papier, avec cet air d'intelligence affectée que peut prendre un singe en pareille occasion. Puis il donna la lettre à Locksley. Si les grandes lettres étaient des arcs et les petites des flèches, je pourrais y comprendre quelque chose, observa l'honnête yeoman. Mais dans l'affaire telle qu'elle est, la signification est aussi loin de ma portée que le cerf qui est à 4 lieues de nous. « Il faut donc que je serve de clerc !» s'écria le chevalier noir. Et recevant la lettre de Locksley, il la parcourut d'abord lui-même, et ensuite en expliqua le sens en saxon à ses confédérés. « Exécuter le noble Cédric ?» s'écria Wamba. « Par la croix, il faut que tu te trompes, sire chevalier !»« Non pas, mon digne ami, » répliqua le chevalier. « J'ai expliqué les mots tels qu'ils sont ici tracés. »«
Alors, par saint Thomas de Canterbury, » répliqua Gert, « il faut nous emparer du château. Quand même, nous devrions la battre de nos mains. »«
Nous n'avons point d'autres armes pour la battre, » reprit Wamba. Seulement, nos mains ne sont guère propres à briser les pierres de taille et le mortier.
Ce n'est qu'un stratagème pour gagner du temps, dit Locksley. Il n'oserait pas commettre un crime dont je tirerais un châtiment épouvantable.
Je voudrais, dit le chevalier noir, qu'il y eût quelqu'un parmi nous qui pût pénétrer dans le château et y découvrir ce que veulent les assiégés. Puisqu'ils permettent qu'on leur envoie un confesseur, il me semble que ce saint ermite pourrait à la fois exercer sa pieuse vocation sans délai et nous procurer les renseignements dont nous avons besoin.
« Peste soit de toi et de ton bon conseil !» s'écria le bon ermite.
Je te dis, sire chevalier fainéant, qu'une fois que j'ai ôté mon froc de moine, ma prêtrise, ma sainteté et jusqu'à mon latin, tout part avec lui. Et lorsque j'ai endossé ma jaquette verte, j'aime mieux tuer 20 chevreuils que confesser un seul chrétien.
« Je crains, dit le chevalier noir, je crains beaucoup qu'il n'y ait personne ici qui puisse prendre sur lui momentanément de jouer le rôle de père confesseur. »
Ils s'entre-regardèrent tous, mais sans répondre.
« Je vois bien, dit Wamba après une courte pause, que le fou doit encore être fou et passer son cou dans le nœud coulant que les hommes sages redoutent. Il faut que vous sachiez, mes cousins et mes compatriotes, que j'ai porté l'habit de paysan avant de porter l'habit bigarré, que j'ai été élevé pour être moine jusqu'à ce qu'une fièvre cérébrale, m'ayant assailli, ne me laissa que juste assez d'esprit pour être bouffon. J'espère qu'avec l'aide du froc de ce bon ermite, et à l'aide surtout de la sainteté et du savoir qui sont cousus dans mon capuchon, on me jugera apte à administrer les consolations temporelles et spirituelles dont ont si grand besoin notre digne maître Cédric et ses compagnons d'infortune.
Penses-tu qu'il ait assez de bon sens pour jouer son rôle ?
Demanda le chevalier noir en s'adressant à Gurt.
Je n'en sais rien, dit Gurt. Mais il n'en a pas assez, ce sera la première fois qu'il manquera d'esprit pour tirer parti de sa folie.
Passe donc le froc, mon brave ami, s'écria le chevalier, et que ton maître nous envoie le récit de la position des défenseurs du château. Ils ne doivent être que peu nombreux, et on peut parier 5 contre 1 qu'ils ne sauront pas résister à une attaque imprévue et audacieuse. Le temps s'écoule, va-t'en.
Et en attendant, dit Locksley, nous allons tellement serrer la place qu'il n'en sortira pas une mouche pour porter des nouvelles. De sorte que, mon brave ami, continua-t-il en s'adressant à Wamba, tu pourras déclarer à ces tyrans que, quelle que soit la violence qu'ils exercent sur la personne de leur prisonnier, elle leur sera très sévèrement rendue.
Pax vobiscum, dit Wamba, qui se trouvait déjà affublé de son vêtement religieux. Et ce disant, il imita la pose solennelle et pompeuse d'un moine et partit pour exécuter sa mission.
Chapitre 26. Lorsque le bouffon, couvert du capuchon et du froc de l'ermite, ceint d'une corde noueuse, se présenta devant le portail du château de Front de Bœuf, la sentinelle lui demanda son nom et le motif de sa visite.
Pax vobiscum, répondit le bouffon. Je suis un pauvre frère de l'ordre de Saint-François, qui vient remplir les devoirs de mon pieux ministère auprès de certains malheureux prisonniers détenus dans ce château.
Tu es un frère bien hardi, dit le garde, de te présenter dans un lieu où, hormis notre propre confesseur, qui est mort depuis quelques mois, un coq de ton plumage n'a jamais chanté depuis 20 ans.
Cependant, je t'en prie, annonce ma visite au seigneur du château, répondit le faux moine. Crois-moi, il donnera ordre qu'on me reçoive. Le coq chantera de manière que tout le château l'entende.
Fort bien, dit le garde. Mais s'il m'arrive malheur pour avoir quitté mon poste sur ta prière, nous verrons si le froc gris d'un moine saura résister à une flèche empennée avec la plume d'une oie grise.
Il quitta la tour après avoir proféré cette menace et alla annoncer à son maître l'étrange nouvelle qu'un révérend moine demandait son admission immédiate dans l'intérieur du château.
Ce ne fut pas sans un vif étonnement qu'il reçut l'ordre d'y laisser pénétrer le saint homme. Et après avoir, au préalable, fait garder l'entrée de la porte pour éviter toute surprise, il suivit sans hésiter les ordres qu'il venait de recevoir. L'amour-propre insensé qui avait excité Wamba à entreprendre cette dangereuse mission lui suffit à peine pour le soutenir lorsqu'il se trouva en présence d'un homme aussi terrible et aussi redouté que l'était Reginald Front de Bœuf. Et il bredouilla son Pax vobiscum, auquel il se fiait en quelque sorte pour soutenir son caractère, avec plus d'inquiétude et d'hésitation qu'il n'en avait montré jusque-là. Mais Front de Bœuf était accoutumé à voir trembler devant lui des hommes de tous les rangs, de sorte que la timidité du prétendu moine ne lui suggéra aucun motif de soupçon. « Qui es-tu et d'où viens-tu, vénérable prêtre ? » demanda-t-il.
« Pax vobiscum, » répéta le bouffon. « Je suis un pauvre serviteur de Saint-François, et en traversant ces solitudes, je suis tombé entre les mains des voleurs. Comme dit l'Écriture, « Quidam viator incidit in latrones. »
Lesquels voleurs m'ont envoyé dans ce château pour y exercer mes fonctions spirituelles auprès de deux personnes condamnées par votre honorable justice ?»«
Fort bien, » répondit Front de Bœuf. « Et peux-tu me dire, Saint-Père, le nombre de ces bandits ?»«
Vaillant chevalier, » répliqua le bouffon, « nomen illis legio, leur nom est légion. »«
Dis-moi, en simple parole, quel est leur nombre ? Ou bien, prêtre, ton habit et ta corde ne te protégeront pas contre ma colère. »«
Hélas !» reprit le moine supposé, « cor meum eructavit, c'est-à-dire que j'ai failli mourir de terreur, mais je crois qu'ils sont, tant yéomen que peuple, au moins 500 hommes. »«
Comment ?» dit le templier, qui en ce moment entrait dans la salle. « Les guêpes se réunissent-elles ici en essaim si nombreux ? Il est temps d'étouffer cette engeance malfaisante. »
Puis, prenant Front de Bœuf à part, il lui demanda « Connais-tu ce prêtre ?»«
Je ne le connais pas, » répondit Front de Bœuf. « Il arrive d'un couvent éloigné. »«
Alors, ne lui confie pas ton dessein de vive voix, » répondit le Templier. « Fais-lui porter un ordre écrit à la troupe des francs compagnons de De Bracy, afin qu'ils viennent à l'instant au secours de leur maître. » Puis, en attendant, et pour que le tonsuré ne soupçonne rien, laisse-le aller remplir sa tâche et préparer ses porcs saxons à se rendre à l'abattoir.
« Soit, » dit Front de Bœuf, « je le ferai. »
Là-dessus, il ordonna à un domestique de conduire Wamba à l'appartement où Cédric et Athelstan étaient enfermés. L'impatience de Cédric avait plutôt augmenté que diminué par cette contrainte. Il parcourait la salle de long en large, avec l'attitude d'un homme qui s'avance pour charger l'ennemi ou pour monter à l'assaut d'un lieu investi, parlant tantôt à lui-même, tantôt à Athelstan, qui attendait bravement et stoïquement la fin de l'aventure, digérant avec beaucoup de tranquillité le copieux repas qu'il avait fait à midi, et s'inquiétant peu de la durée de sa captivité, qu'il jugeait devoir, ainsi que tous les maux de ce bas monde, se terminer selon le décret du ciel.
« Pax vobiscum !» s'écria le bouffon en entrant dans l'appartement. « Que la bénédiction de Saint-Dunstan, de Saint-Denis, de Saint-Dutoc et de tous les autres saints descende sur vous et autour de vous. »
« Entre librement, » dit Cédric au prétendu moine, « et dis-moi dans quelle intention tu es venu ici. »
« Pour vous dire de vous préparer à la mort, » répondit le bouffon.
« À la mort ? C'est impossible, » répondit Cédric en tressaillant. « Tout audacieux et méchant que soient nos ennemis, ils n'oseraient commettre une aussi grande cruauté. »«
Hélas, » reprit le bouffon, « vouloir les retenir par un sentiment d'humanité, ce serait vouloir arrêter avec un brin de soie un cheval emporté. » « Rappelez-vous donc, noble Cédric, et vous aussi, vaillant Athelstan, quels sont les crimes que vous avez commis ? Car ce jour même, vous serez sommé de répondre devant un plus auguste tribunal. »«
Entends-tu cela, Athelstan ? » s'écria Cédric.
« Il faut armer nos cœurs contre cette dernière disgrâce, parce qu'il vaut mieux mourir en homme que de vivre en esclave. »«
Je suis prêt, » répondit Athelstan, à supporter tout ce que leur malice peut inventer de plus odieux, et je marcherai à la mort avec autant de calme et de sang-froid que si je me rendais à un festin.
Prépare-nous donc à remplir nos saints devoirs, mon père, dit Cédric.
Attendez encore un moment, mon oncle, dit le bouffon de sa voix naturelle. Il faut regarder à deux fois avant de faire le saut périlleux.
Par ma foi, s'écria Cédric. « Je connais cette voix. »«
C'est celle de votre fidèle esclave et bouffon, » répondit Wamba en rejetant en arrière son capuchon.
« Si vous aviez suivi le conseil d'un fou, vous ne seriez pas ici.
Suivez l'avis d'un fou maintenant, et vous n'y resterez pas longtemps. »
« Que veux-tu dire, drôle ? »
s'écria le Saxon.
« Ceci seulement, reprit Wamba. Prenez ce froc et cette corde, seuls ordres religieux que j'ai jamais portés. Sortez tranquillement du château et laissez-moi votre manteau et votre ceinture. Je ferai le grand saut à votre place. »
« Te laisser à ma place ? » s'écria Cédric, stupéfait de la proposition.
« Mais ils te pendraient, mon pauvre fou !»«
Ils feront ce que Dieu leur permettra de faire, » dit Wamba.
« J'espère que, sans déroger à votre dignité, le fils de Witless peut être pendu au bout d'une chaîne avec autant de gravité que son ancêtre, l'Alderman, portait sa chaîne suspendue à son cou. »
« Eh bien, Wamba, » reprit Cédric, « j'accepte ton dévouement, mais à une condition, c'est que tu feras cet échange de vêtements avec Lord Athelstan, et non avec moi. »
« Non, de par Saint-Dostan, » répondit Wamba. « Cela serait plus raisonnable. C'est à bon droit que le fils de Witless se sacrifie pour sauver le fils d'Erward. Mais il y aurait peu de sagesse à ce qu'il mourût pour le bien d'un homme dont les pères étaient inconnus des siens.
« Vilain !» s'écria Cédric. « Les pères d'Athelstan étaient rois d'Angleterre. »«
Cela est possible, » répliqua Wamba. « Mais mon cou est trop solidement attaché à mes épaules pour qu'ils se laissent tordre à leur profit. »
« C'est pourquoi, mon bon maître, prenez pour vous-même mon offre de service, ou laissez-moi quitter ce donjon aussi librement que j'y suis entré. »
« Laisse périr le vieil arbre, » continua Cédric, « et que le jeune et majestueux espoir de la forêt soit sauvé. Sauve le noble Athelstan, mon fidèle Wamba. C'est le devoir de tous ceux qui ont du sang saxon dans les veines. » Toi et moi, nous subirons ensemble la dernière vengeance de nos agresseurs malveillants. Tandis que lui, libre et hors de danger, il relèvera le courage de nos compatriotes et les aidera à venger notre mort.
« Il n'en sera pas ainsi, père Cédric !» s'écria Athelstan en serrant les mains du vieillard. Car lorsque quelques circonstances faisaient sortir Athelstan de son apathie habituelle, ses actions et ses sentiments n'étaient pas indignes de sa grande race.
« Il n'en sera pas ainsi, » continua-t-il. « J'aimerais mieux rester dans cette salle toute une semaine sans autre nourriture que la mince ration de pain du pauvre prisonnier que de profiter, pour échapper à mon sort, de la bonté instinctive d'un esclave dévoué à son maître. »
« On vous appelle des hommes sages, messire, » dit le bouffon. « Et moi, on m'appelle un fou. »
Mais, oncle Cédric et cousin Athelstan, le fou décidera de cette discussion pour vous épargner la peine de ses courtoisies exagérées. Je suis comme la jument de John Duck qui ne veut plus porter personne, si ce n'est John Duck. Je suis venu pour sauver mon maître, et s'il n'y veut pas consentir, soit je m'en irai comme je suis venu. On ne peut se passer de main en main un bon service comme une balle ou comme un volant. « Je ne veux être pendu pour homme qui vive, si ce n'est pour celui qui est né mon maître. »«
Acceptez donc, noble Cédric, » reprit Athelstan. « Ne négligez pas cette occasion. Votre présence au dehors pourra encourager nos amis à tenter notre délivrance. Si vous restez ici, nous serons tous perdus. »
« Y a-t-il espoir d'obtenir quelque secours du dehors ?» demanda Cédric en regardant le bouffon.
« De l'espoir, je le crois bien !» s'écria Wamba.
« Laissez-moi vous dire que si vous consentez à endosser ce froc, vous vous couvrez d'un habit de général. 500 hommes sont là aux alentours. Ce matin, j'étais moi-même un de leurs principaux chefs. Mon bonnet de fou me servait de casque et ma marotte de bâton. Eh bien, nous allons voir quel avantage ils auront en troquant un fou contre un sage. Mais, à vrai dire, je crois vraiment qu'ils perdront en valeur ce qu'ils pourront gagner en prudence. »
En parlant ainsi, il changeait de vêtements avec Cédric.
« Adieu donc, mon maître. Soyez bon pour le pauvre Gert et pour son chien Fangs, et faites suspendre ma crête de coq dans la salle de Rottenwood, en souvenir de ce que, en fou fidèle, j'aurais donné ma vie pour sauver celle de mon maître. »
Cette dernière parole fut dite avec une expression à la fois si attendrissante et si comique
que des larmes brillèrent dans les yeux de Cédric.
« Ta mémoire sera conservée, » dit-il,
« tant que la fidélité et l'affection seront en honneur sur la terre. Mais j'espère que je trouverai le moyen de sauver ma chère Rowena, le noble Atestan, et toi aussi, mon pauvre Wamba, car ne crois pas que ton maître puisse jamais t'oublier. »
Le changement d'habit fut bientôt opéré, mais une crainte subite frappa l'esprit de Cédric.
« Je ne connais d'autre langue que la mienne, » dit-il, « sauf quelques mots de leur normand maudit. Comment pourrais-je me faire passer pour un révérend frère ?»«
Le charme se compose de deux mots, » répondit Wamba.
« Pax vobiscum vous servira de réponse à toutes les questions. Que vous alliez ou que vous veniez, que vous mangiez ou que vous buviez, que vous bénissiez ou que vous maudissiez. Pax vobiscum vous aidera à franchir tous les obstacles. »
Cette phrase est aussi utile à un moine que l'est un balai à une sorcière ou une baguette à un enchanteur. Prononcée seulement d'une voix grave et solennelle, le pax vobiscum est irrésistible. La sentinelle et le garde, le chevalier et l'écuyer, les fantassins et les cavaliers subissent tous son charme. Je pense que s'ils me conduisent demain à la potence, ce qui n'est que trop probable, je pourrais éprouver son influence sur l'exécuteur des hautes œuvres.
S'il en est ainsi, reprit son maître, mes instructions religieuses seront bientôt apprises.
Pax vobiscum.
J'espère ne pas oublier le mot d'ordre. Adieu, noble Atelstan. Adieu aussi, pauvre enfant, dont le cœur vaut mieux que la tête. Je vous sauverai ou je reviendrai mourir avec vous. Le sang de nos rois saxons ne sera pas répandu tant qu'une goutte du mien coulera dans mes veines, et il ne tombera pas un cheveu de la tête du pauvre fou qui a risqué sa vie pour sauver celle de son maître, tant que Cédric pourra y mettre obstacle, même au péril de ses jours. Adieu.
Adieu, noble Cédric, dit Atelstan, et souvenez-vous que pour jouer au naturel le rôle d'un moine, il faut accepter les rafraîchissements qu'on pourra vous offrir.
« Adieu, mon oncle, » ajouta Wamba, « et rappelez-vous le Pax vobiscum. »
Ainsi encouragé, Cédric quitta ses deux compagnons, et il ne tarda pas à trouver l'occasion de mettre à l'épreuve la vertu du charme que son bouffon lui avait recommandé comme étant tout-puissant. Dans un corridor bas, voûté et sombre, où il cherchait à tâtons le chemin qui conduisait à la salle du château, il fut rencontré par une femme.
« Pax vobiscum, » dit le faux moine en se rangeant de côté pour la laisser passer.
« Et vobiscum quoeso, domine reverendissime, pro misericordia vestra, » répondit une voix douce.
« Je suis un peu sourd, » répondit Cédric en bon saxon. Et se rappelant aussitôt qu'il venait d'employer un idiome suspect, il marmotta en lui-même « La peste soit du fou et de son pax vobiscum, j'ai perdu mon javelot du premier jeu. »
Ce n'était pas toutefois chose si surprenante pour un prêtre de ces temps-là de rester sourd de son oreille latine, et la personne qui s'était adressée à Cédric ne l'ignorait pas.
« Je vous prie en grâce, révérend père, répliqua-t-elle en saxon, de vouloir bien donner quelque consolation spirituelle à un prisonnier blessé qui se trouve dans ce château. Accordez-lui la pitié que vous inspire votre saint ministère, et jamais bonne action n'aura été plus profitable à votre couvent.
« Ma fille, » répondit Cédric très embarrassé, « le peu de temps qui me reste à passer dans ce château ne me permet pas d'y exercer les devoirs de mon office. Il faut que je sorte immédiatement. » « La vie ou la mort d'un chrétien dépend de ma promptitude. »«
Permettez-moi cependant, mon père, » répliqua la suppliante, « de vous conjurer de ne pas laisser sans conseil et sans secours un malheureux qu'on opprime et dont la vie est en danger. »«
Que le démon m'emporte et me laisse enfin avec les âmes d'Odin et de Thor, » répondit Cédric impatienté. Et il allait probablement oublier tout à fait le caractère religieux dont il était revêtu, lorsque la conversation fut interrompue par la voix rauque d'Urfwid, la vieille sorcière de la tourelle.
« Comment, ingrate ! » cria-t-elle à la solliciteuse. « C'est donc ainsi que tu reconnais la bonté que j'ai eue en te faisant sortir de la prison ?
Tu obliges un révérend frère à se servir de paroles empreintes de colère pour se soustraire aux importunités d'une juive ?»«
Une juive ?» s'écria Cédric, profitant de cet incident pour s'éloigner.
« Laisse-moi passer, femme. Ne m'arrête pas si tu tiens à la vie. Je ne veux pas être souillée par un contact indigne, au moment même où je viens d'officier. »«
Viens par ici, mon père, » dit la vieille furie.
« Tu ne connais pas ce château, et tu ne peux le quitter sans le secours d'un guide. Viens ici, car j'ai à te parler. Et toi, fille d'une race maudite, remonte dans la chambre du malade et soigne-le jusqu'à mon retour. Et malheur à toi si tu le quittes encore sans ma permission. »
Rebecca se retira. À force de supplications, elle était parvenue à obtenir d'Urfried la permission de quitter la tourelle, et Urfried avait employé ses services à des soins que Rebecca elle-même aurait été heureuse de prodiguer au chevet d'Ivanhoé blessé. Avec une intelligence que doublait encore l'imminence du danger, prompte à saisir la moindre chance de salut, Rebecca avait conçu quelque espoir en apprenant d'Urfried la présence inaccoutumée d'un religieux dans ce château impie. Elle avait donc épié le passage du prétendu moine dans le but de l'intéresser au sort des prisonniers. Mais le lecteur vient d'apprendre comment elle échoua dans son projet.
Chapitre 27. Lorsque Urfried, à force de clameurs et de menaces, eut renvoyé Rebecca dans l'appartement que celle-ci avait quitté, elle se mit à conduire le récalcitrant Cédric dans une petite salle dont elle ferma ensuite soigneusement la porte. Puis, tirant d'une armoire une cruche de vin et deux verres, elle les plaça sur la table en disant d'un ton plutôt affirmatif qu'interrogatif. « Tu es saxon, mon père, ne le nie pas », ajouta-t-elle, remarquant que Cédric ne se hâtait pas de répondre. « Le son de ma langue natale est doux à mon oreille, bien que je l'entende rarement. » Si ce n'est quand il sort de la bouche de misérables serfs, être dégradé sur qui ces fiers normands rejettent le fardeau des ouvrages les plus vils et les plus pénibles. Tu es un saxon, mon père. Oui, un saxon. Et quoique tu sois le serviteur de Dieu, un homme libre. Ton accent est doux à mon oreille.
Les prêtres saxons ne visitent donc pas ce château ? Répliqua Cédric. Il me semble pourtant qu'il serait de leur devoir de consoler les enfants opprimés et repoussés du sol.
Ils n'y viennent pas, ou s'ils viennent, ils aiment mieux se réjouir à la table de leurs conquérants que d'entendre les lamentations de leurs compatriotes. Du moins, c'est ainsi que la renommée en parle, car par moi-même, je ne sais que peu de choses à cet égard-là. Ce château, depuis 10 ans, ne s'est ouvert pour aucun prêtre, à l'exception du chapelain normand et débauché qui partageait les orgies nocturnes de Front de Bœuf, et celui-là, depuis longtemps, est allé rendre compte à Dieu de sa conduite. Mais tu es un saxon, toi, un prêtre saxon, et j'ai une question à t'adresser, ou pour mieux dire, une confession à te faire.
« Je suis saxon, il est vrai, » répondit Cédric, « mais indigne assurément du nom de prêtre. » « Laissez-moi continuer mon chemin. Je vous le jure, je reviendrai, ou j'enverrai l'un de nos frères. Il sera plus digne que moi d'entendre votre confession. »«
Reste encore un peu, » dit Urfried. « Les accents de la voix que tu entends maintenant seront bientôt étouffés par la froide terre, et je ne voudrais pas descendre au tombeau en indigne créature telle que j'ai vécu. Mais il faut que le vin me donne la force de raconter les horreurs de mon histoire. »
Urfried se versa une coupe de vin et la vida avec une avidité qui semblait vouloir extraire la dernière goutte du gobelet.
« Le vin me ranime, » dit-elle en levant les yeux vers le plafond après avoir bu. « Mais il ne saurait me réjouir. Buvez, mon père, si vous voulez entendre mon récit sans tomber à la renverse. »
Cédric aurait voulu pouvoir repousser cette triste invitation. Mais le signe qu'elle lui fit exprimait tant d'impatience et un si profond désespoir qu'il se rendit à sa prière et avala une grande coupe de vin. Alors, et comme si la complaisance du Saxon eût calmé ses esprits, elle parut plus calme et parla en ces termes.
« Je ne suis pas née, mon père, » dit-elle, « misérable comme tu me vois aujourd'hui. J'étais libre, j'étais heureuse, j'étais honorée, j'aimais et j'étais aimée.
Je suis maintenant une esclave, misérable et dégradée. J'ai été le jouet des passions de mes maîtres, tant que j'ai eu de la beauté. Quand elle s'est flétrie, je suis devenu l'objet de leur mépris, de leur dédain, de leur haine et de leur dérision. Tu peux être surpris, mon père, de la haine que je porte au genre humain, et surtout à la race qui a produit en moi cette transformation. Est-ce que la vieille sorcière ridée qui est devant toi, et dont la colère ne peut s'exprimer que par des malédictions impuissantes, peut oublier qu'elle fut autrefois la fille du noble Ethan de Torquilstone, sous le regard duquel tremblaient 1000 vassaux ?
Toi, la fille de Torquil Wolfganger ? S'écria Cédric en reculant de surprise.
Toi, la fille de ce noble Saxon, l'ami, le compagnon d'armes de mon père ?
De ton père ? Répéta Urfried.
C'est Cédric, dit le Saxon, que j'ai devant les yeux. Car le noble Erward de Rotherwood n'avait qu'un fils, dont le nom est bien connu parmi ses compatriotes.
Mais si tu es Cédric de Rotherwood, pourquoi cet habit religieux ? As-tu désespéré de sauver ton pays ? As-tu cherché dans l'ombre d'un cloître un refuge contre la cruauté de son oppresseur ?
N'importe qui je suis, répondit Cédric. Continue, malheureuse, ton récit composé d'horreurs et sans doute de crimes.
Il y a un crime dans ma vie, répondit Urfried, un crime profond, noir et damnable, un crime qui pèse comme un poids sur ma poitrine, un crime que tous les fers de l'enfer ne pourront purifier. Oui, dans ce château teint du sang pur et noble de mon père et de mes frères, avoir vécu pour assouvir et partager les plaisirs de leur meurtrier, être à la fois son esclave et sa complice, c'est faire de chaque aspiration que j'empruntais à l'air vital un crime et une malédiction.
Malheureuse, s'écria Cédric. Et pendant que les amis de ton père, pendant que chaque cœur vraiment saxon, en récitant un requiem pour son âme et pour celle de ses vaillants fils, n'oubliez pas dans leur prière la malheureuse Ulrika, pendant que tous pleuraient et honoraient les morts, tu vivais pour mériter notre haine et notre exécration ? Tu vivais pour t'unir avec le misérable qui a assassiné tes parents ? Qui a répandu le sang de l'enfance plutôt que de laisser survivre un fils de la noble maison de Torquil Wolfganger ? Tu vivais pour t'unir à lui par les liens d'un illégitime amour ?
Par des liens illégitimes à la vérité, mais non pas ceux de l'amour, répondit la furie. L'amour ira plutôt visiter les régions de la demeure éternelle que ces voûtes sacrilèges. Non, ce reproche, du moins, je ne puis me l'adresser. Mon âme a été dominée par une profonde haine pour Front de Bœuf et sa race, même pendant les heures de ses coupables tendresses.
Vous l'avez haï, et cependant vous avez vécu auprès de lui, répliqua Cédric.
Malheureuse, n'y avait-il pas de poignard, de couteau, de poinçon à la portée de tes mains ?
C'est heureux pour toi, puisque tu attaches du prix à une telle existence que ces secrets d'un château normand soient comme ceux de la tombe. Car si j'avais pu seulement soupçonner que la fille de Torquil vécut dans une liaison honteuse avec le lâche assassin de son père, l'épée d'un vrai Saxon l'eût frappée dans les bras de son amant.
« Aurais-tu vraiment rendu justice au nom de Torquil ?» demanda Ulrika, car nous pouvons maintenant mettre de côté son nom d'Urfried.
« Tu es donc le vrai Saxon, tel que l'a renommé le dépeint ? Car même dans ces murailles maudites, où, comme tu le dis, le crime s'enveloppe de mystères impénétrables, ici même le nom de Cédric a retenti. » Et moi, malheureuse et dégradée, je me suis réjouie à la pensée qu'il existait encore un vengeur de notre nation infortunée. J'ai eu aussi mes heures de vengeance. J'ai fomenté des querelles entre nos ennemis. J'ai converti l'orgie en dispute et en assassinat. J'ai vu couler leur sang. J'ai entendu leurs gémissements d'agonie. Regarde-moi, Cédric. Ne trouves-tu pas encore sur cette figure flétrie et avilie quelques traits qui te rappellent le souvenir des Torquil ?
Ne m'interroge pas, Ulrika, répliqua Cédric d'un ton de douleur mêlé de dégoût et de tristesse.
Les traces de ressemblance sont celles qu'on peut trouver sur le cadavre qu'un démon fait sortir du tombeau.
Soit, répondit Ulrika,
mais ses traits d'un esprit diabolique étaient couverts d'un masque représentant ceux d'un ange de lumière, quand ils parvinrent à semer la discorde entre le vieux Front de Bœuf et son fils Réginald. L'obscurité de l'enfer devait cacher ce qui s'ensuivit. Mais il faut que la vengeance soulève le voile. Il faut qu'elle pénètre dans les faits mystérieux qui feraient frémir les morts, si on les leur racontait ouvertement. Depuis longtemps couvait le feu étouffé de la discorde entre un père tyran et un fils sauvage. Depuis longtemps j'avais alimenté en secret cette haine dénaturée. Elle éclata dans un moment d'ivresse, et mon oppresseur tomba à sa propre table, frappé par son fils. Tels sont les secrets cachés sous ces voûtes. Écroulez-vous, murailles maudites ! S'écria-t-elle en levant vers le plafond des yeux égarés. Et engloutissez dans votre chute tous ceux qui connaissent ces odieux mystères.
Et toi, créature criminelle et misérable, dit Cédric, quel fut ton sort après la mort de ton ravisseur ?
Devinez-le, mais ne le demandez pas. Je vécus ici, dans ce château, où je suis restée jusqu'à ce qu'une vieillesse prématurée ait empreint mon visage de ses traits livides, rebutée et insultée là où j'étais jadis obéie, forcée de borner ma vengeance, qui était autrefois illimitée, aux proportions mesquines du mécontentement d'une servante ou aux vaines malédictions d'une créature impuissante, condamnée à entendre de ma tourelle isolée le bruit des plaintes que je partageais autrefois, ou les cris et les gémissements de nouvelles victimes.
Ulrika, reprit Cédric, avec un cœur qui, je le crains bien, regrette encore la carrière de crime que tu as parcourue. Comment oses-tu adresser la parole à un homme qui porte cette robe ? Femme malheureuse, qu'aurait pu faire pour toi Saint-Édouard lui-même s'il était ici en corps et en âme ? Le royal confesseur était doué par le ciel du pouvoir de guérir les ulcères du corps. Mais Dieu seul peut guérir la lèpre de l'âme.
Cependant, ne te détourne pas de moi, sévère prophète de la colère, s'écria Ulrika. Mais si tu le peux, dis-moi où aboutiront ces sentiments nouveaux et terribles qui se répandent sur ma solitude. Pourquoi les actes commis depuis si longtemps se dressent-ils devant moi comme de nouvelles et irrésistibles horreurs ? Quel est le destin qui attend, au-delà du tombeau, celle à qui Dieu a assigné sur la terre un sort d'une misère si épouvantable ? J'aimerais mieux retourner à Woden, Erta et Zernebock, et à tous les dieux de nos ancêtres païens, que d'endurer les terreurs anticipées dont je suis assaillie toute la journée et qui me poursuivent jusque dans mon sommeil.
« Je ne suis pas prêtre, » dit Cédric en se détournant avec dégoût de cette image misérable du crime, du malheur et du désespoir.
« Je ne suis pas prêtre, bien que je porte l'habit clérical. »«
Et prêtre ou laïque ?» répondit Ulrika. « Tu es le seul être craignant Dieu que j'ai vu depuis 20 ans. Est-ce que tu me dis que pour moi, il n'y a plus d'espoir ?»«
Je te dis de te repentir, » répartit Cédric. « Recherche la prière et la pénitence, et puisses-tu trouver la miséricorde céleste. Mais je ne peux ni veux rester plus longtemps auprès de toi. »«
Reste encore, » dit Ulrika d'un ton de prière. « Ne me quitte pas maintenant, fils de l'ami de mon père, de peur que le démon qui a dominé ma vie ne me pousse à me venger de ton mépris implacable. » Penses-tu que, si Front de Bœuf trouvait Cédric le Saxon dans son château, sous ce déguisement, ta vie serait de longue durée ? Déjà son œil s'est fixé sur toi, comme celui d'un faucon sur sa proie.
« Eh bien, » répondit Cédric, « que ce faucon me déchire de son bec et de ses griffes. Que ma langue ne dise pas un mot qui ne soit avancé par mon cœur. Je mourrai en Saxon, fidèle à ma parole, franc dans mes actions. Je t'ordonne de te retirer. Ne me touche pas, ne me retiens pas. La vue de Front de Bœuf lui-même me serait moins odieuse que celle d'une femme dégradée et avilie comme toi. »
« Soit, » reprit Ulrika, cessant de retenir Cédric. « Suis ton chemin et oublie dans l'insolence de ta supériorité que la misérable que tu abandonnes est la fille de l'ami de ton père. Suis ton chemin. Si je suis séparée du genre humain par mes souffrances, séparée de ceux auxquels je pourrais à plus juste titre demander un appui, je ne veux pas du moins être séparée d'eux dans ma vengeance. Nul homme ne m'aidera, mais les oreilles de tous les hommes tinteront au bruit de l'action que j'oserai commettre. Adieu. Ton mépris a brisé le dernier lien qui semblait encore m'attacher aux hommes. Il a détruit l'espoir que mes angoisses pourraient m'attirer la compassion de mes compatriotes.
Ulrika, dit Cédric, que cet appel avait attendri, as-tu supporté l'existence à travers tant de misère pour t'abandonner au désespoir, quand tes yeux sont ouverts sur le crime et que le repentir peut être pour toi une consolation ?
Cédric, répondit Ulrika,
tu connais peu le cœur humain. Pour agir et penser comme je l'ai fait, il a fallu l'amour effréné du plaisir mêlé à une soif ardente de vengeance et la conscience orgueilleuse de pouvoir la mettre à exécution. Ce sont là des passions trop enivrantes pour que le cœur humain les ressente et conserve la force de les combattre. Cette force a succombé depuis longtemps. La vieillesse n'a pas de plaisir. Les rides n'ont aucune influence. La vengeance elle-même s'évapore en malédictions impuissantes. Alors vient le remords avec toutes ses vipères, les vains regrets du passé et le désespoir de l'avenir. Alors, quand toutes les facultés sont suspendues, nous devenons semblables aux démons de l'enfer qui ressentent le remords, mais qui ignorent le repentir. Mais tes paroles ont fait naître en moi une nouvelle âme. Tu as bien dit « Tout est possible à ceux qui osent mourir ». Tu m'as montré les moyens de me venger, et sois certain que j'en ferai usage. Ce sentiment n'avait eu sur moi jusqu'ici qu'un empire partagé avec d'autres passions rivales. Dorénavant, il me remplira tout entière. Et tu pourras dire toi-même que, quelle qu'ait été la vie d'Ulrika, sa mort fut digne de la fille du noble Torquil. Il y a une troupe d'hommes au dehors. Ils assiègent ce château maudit. Hâte-toi de les conduire à l'assaut. Et quand tu verras un drapeau rouge flotter sur la tourelle, à l'angle est du donjon, ordonne l'assaut. Attaque les Normands avec rigueur. Ils auront assez d'ouvrages dans l'intérieur. Et tu pourras gagner le mur en dépit des flèches et des javelots. Pars, je t'en prie, suis ta destinée et laisse-moi subir la mienne. »
Cédric eût désiré pénétrer plus avant dans le dessein d'Ulrika, mais la voix farouche de Front de Bœuf se fit entendre.
« À quoi donc s'amuse ce fainéant de prêtre » criait-il. « Par les coquilles de Compostelle, je vais en faire un martyr s'il reste ici à flâner et à semer la trahison parmi mes domestiques. »
« Quel bon prophète qu'une mauvaise conscience !» dit Ulrika. « Mais ne l'écoute pas. Sors et va rejoindre les gens. Pousse le cri saxon pour commencer l'attaque. Et si les Normands y répondent par le chant guerrier de Roland, la vengeance se chargera du refrain. »
En achevant ces mots, elle disparut par une porte secrète et Reginald Front de Bœuf entra dans l'appartement.